Vibrant, vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée.
Mettre son doigt dans son vagin,
qu'est-ce qui va faire qu'on va aussi arrêter de se juger entre nous les femmes?
On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe.
On n'a pas passé 2 mois sous la couette quand même?
Non.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante. On est ravis avec Carole parce que pour commencer cette nouvelle année, on va aborder un sujet dont on parle depuis longtemps avec Carole, qu'on ne savait peut-être pas réellement comment en parler ou comment l'amener dans ce podcast, mais on pense que c'est vraiment nécessaire et c'est pour ça que, comme à chaque fois, on a fait une rencontre et c'est cette rencontre qui nous amène à cet épisode. Donc on reçoit aujourd'hui Hervé Guillemot. Bienvenue.
Bienvenue à tous, bonjour.
Tu es avec nous parce que tu es dans cette association qui s'appelle l'Escale Solidarité Femmes.
Oui.
Et avant de parler du sujet, je pense que je vais te laisser déjà présenter cette association pour que tout le monde puisse comprendre pourquoi est-ce qu'on est tous ici.
J'y suis intervenant théâtre, donc je ne fais pas partie de l'association à proprement parler, mais c'est une association qui depuis des années accueille, accompagne des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Donc ça va de cet accueil à une proposition d'hébergement, c'est les accompagner, donc notamment dans toutes les démarches administratives, enfin les aider à à la fois à se reconstruire, à refaire leur vie et à retrouver un minimum de dignité et pouvoir poursuivre leur chemin.
Et où est basée cette association ?
Elle est basée à Gennevilliers, donc dans les Hauts-de-Seine.
Et toi, ça fait combien de temps maintenant que tu es intervenant théâtre ?
Alors ça remonte à 2019, donc c'est pas très vieux. Mais j'ai rencontré Tania Mpengo-Imela, qui est éducatrice spécialisée dans cette association et qui m'a proposé un challenge assez surprenant pour moi, qui n'était pas évident, qui consistait à non pas seulement monter un atelier théâtre qui serait en interne un complément des autres ateliers qui sont évidemment indispensables, qui sont ateliers estime de soi, parentalité, self-défense, enfin tous les ateliers qui permettent justement à ces femmes de retrouver un peu une estime d'elles-mêmes. Et là, c'est un atelier théâtre, mais dont l'objectif, dont la finalité est de sortir les murs, de sortir des murs, c'est-à-dire de évidemment travailler l'acte théâtral, c'est d'écrire, de coécrire, de monter une pièce, de réfléchir à la mise en scène, de ensuite répéter cette pièce, et puis enfin de la produire devant un public, mais un public, pas un public, pas une niche, pas un public uniquement de personnes concernées, averties, mais devant le grand public. Et ça, c'est le grand défi pour toutes les troupes puisqu'enfin, je dis les troupes, on en est déjà 2 troupes, puisqu'on a fait 2 créations depuis 2019.
Et toi, tu l'as vue justement, cette pièce de théâtre, Carole ?
Oui, j'ai été la voir à Colombes.
Colombes, oui.
Voilà. Moi, j'ai été très, très émue par cette pièce. Ces femmes m'ont effectivement touchée dans cette co-écriture entre des mots qui viennent d'elles et puis d'autres textes qui ne sont pas d'elles. Mmh. Moi, j'ai été aussi, il y a tout âge, dans cette troupe, de me voir que des femmes jeunes aussi sont victimes de violences. Je les trouve extrêmement courageuses. De se mettre en scène comme ça devant un public qui pas connu comme tout le monde, mais où elles parlent avec leurs tripes à certains moments où on se dit c'est leur vie, quoi, c'est dur. Voilà, moi, je me suis imaginé un peu tout ce qu'elles avaient pu vivre sans même savoir ce qui s'est réellement passé, parce qu'on le sait pas et on n'est pas là pour le savoir d'ailleurs. Et elles étaient très, très... J'ai trouvé à un moment donné qu'elles se sentaient un peu gênées, un peu... Est-ce que je suis bien à ma place ? Et en fait, elles étaient très bien à leur place sur scène, quoi.
Et toi, qu'est-ce que t'as reçu après une pièce de théâtre comme celle-ci ? Je pense qu'on on réfléchit un peu, non ? On doit rentrer chez soi avec quelques questions. Qu'est-ce que ça a provoqué en toi, en fait, de partager ce récit-là ?
La première question, je me suis posée de dire comment elles ont pu s'ouvrir à un homme. Et je pense que c'est une des questions qu'on posera à Hervé. Comment elles ont pu s'ouvrir à un homme, étant donné qu'elles se sont fait violenter par d'autres hommes. Ça m'a posé des questions en me disant où les gens qu'ils accompagnent, où on va trouver cette énergie en elles et toutes les ressources que chaque être humain peut avoir pour se dire « je vais m'exposer », parce qu'elles s'exposent en étant sur des pièces de théâtre. Et toujours cette question, qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ces contextes-là pour que ces femmes, on arrive à taper quelqu'un, quoi. Tout simplement, une femme, ou qu'on arrive à avoir de cette violence, quoi. C'est ce côté inhumain, quoi, que je comprends toujours pas.
Qui est dégoûtant, oui. Qui est injuste.
Et du coup, ça m'a aussi renvoyée sur... moi, j'ai quelques patientes qui sont victimes de violences. Et du coup, ça m'a renvoyé à ça sur est-ce que moi je les accompagne bien ? Enfin, ça me re-questionne sur mon métier, sur ce côté victime et tout ce qu'elles peuvent dire, qui sont extrêmement. Dire comment elles peuvent supporter l'insupportable, quoi.
Ça, c'est la grande question.
C'est ça.
Alors, on va essayer de répondre à quelques-unes de tes questions. Alors, comment, c'est sûr que moi aussi, c'est quelque chose qui m'a interpellée. C'est vrai que quand une femme est victime de violences conjugales, de violences sexuelles, ça peut paraître très, très, très délicat de s'ouvrir et de partager son histoire auprès d'un homme. Non pas que cet homme va reproduire la même chose, mais parce qu'il réveille, j'imagine, des traumatismes et un sentiment peut-être d'insécurité, enfin très certainement, d'insécurité. Comment ça s'est passé pour toi, Hervé ?
Alors ça me permet de rebondir juste sur une réflexion de Carole qui est tout à fait juste, à savoir que, Carole, tu disais, on n'était pas là pour qu'elles racontent ce qu'elles ont vécu, et c'est pas ça qui nous intéresse. Et c'est vraiment tout à fait au cœur du projet, à savoir que, ben, moi non plus, je ne sais pas ce qu'elles ont vécu. Et je dirais que, évidemment, c'est une manière de parler. Quand je dis que ça, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas là-dessus, c'est pas sur ce terrain que je veux forcément aller. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas du témoignage. Et de même, elles-mêmes ne souhaitent pas qu'on les présente réellement en tant que telles victimes de violences conjugales. Elles veulent simplement se présenter comme des comédiennes, des femmes normales, enfin, et qui elles ne veulent pas être stigmatisées. Ça me paraît effectivement très très important. Donc, c'est fondamental en tout cas dans le rapport que j'ai dû instaurer avec elles. Alors, je précise d'abord tout de suite que dès le début, avec le premier groupe et évidemment avec le deuxième groupe, je suis accompagné. Je suis pas en vol libre, je suis pas en solo.
Non, bien sûr.
Je suis accompagné avec en interface de l'association, entre guillemets en médiatrice, par justement Tania Mpengo-Umela, qui est là en permanence et qui, dès le premier jour, explique quel est l'enjeu de cet atelier théâtre. C'est de monter sur scène devant un public large, hors les murs. Et pourquoi c'est un homme ? Et justement, pour briser un peu, ou bien pour ouvrir les portes et ne pas être uniquement dans un univers féminin. Et donc, c'est vrai que le challenge pour moi, c'est d'être face à ces femmes, mais pour elles, au départ, c'est d'être effectivement aussi face à moi. Alors bon, là, on est en radio, on est en podcast, on ne me voit pas, mais moi, je suis un vieux monsieur. Donc, je veux dire, c'est une image, déjà, qui, je pense, est relativement apaisante. D'ailleurs, à un moment, dans une discussion avec le premier groupe, il y en a une qui, tout en me regardant comme ça, avec... toujours une petite part, quand même un petit peu de défiance, a dit aux autres, non, mais lui, on peut lui faire confiance, il ressemble à Pierre Belmar. Donc voilà, c'est genre le...
Mais c'est, en fait, la moustache.
Ça révélait bien quand même quelque chose. Mais il est vrai que malgré cette l'introduction de Tania, pendant les deux premiers mois, je dirais presque les revolvers sont sur la table. Quand on, en tout cas de leur côté, c'est vraiment c'est qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il va me faire faire, qu'est-ce qu'il me demande, pourquoi je dirais quelque chose, pourquoi. Et puis petit à petit. Alors ça, c'est grâce à Tania. Bon, c'est aussi ma manière d'aborder qui est dédramatisante, qui est moi, mon objectif, si vous voulez, c'est au fond, c'est de les. Pour moi, je parle d'un compagnonnage avec ces femmes. Il n'y a pas de rapport hiérarchique. C'est vraiment un compagnonnage. C'est allez, tenez, on va faire un truc ensemble et on va s'amuser à faire un truc ensemble. Et ce qui était pour moi le plus fort, c'est d'arriver. Elles retrouvent l'envie de rire. Elle retrouve le plaisir de rire, le plaisir de bouger. Je dirais, c'est classique dans un atelier théâtre. Parce que moi, je suis pas thérapeute. Hein,
c'est pas, l'objectif en fait.
Ah non, c'est absolument c'est pas l'objectif. L'objectif,
c'est l'expression de soi.
L'atelier est a priori ouvert à toutes les femmes de l'association. Il y en a malheureusement beaucoup trop. Et dès qu'on explique quel est l'enjeu. Tout de suite, on passe d'une trentaine de femmes intéressées à plus qu'une dizaine, une douzaine. Et lorsqu'on a les premières séances, très vite, ça se réduit. Parce
qu'elles ne peuvent pas. Bien sûr, elles ont le droit de partir quand elles veulent.
Alors,
de
non, justement. Justement, l'objectif, c'est, après 2 mois, on va dire, d'exploration, c'est de former une troupe et qui s'engage à rester jusqu'au bout. Et c'est un énorme travail parce que ces femmes elles-mêmes ont un travail, elles ont des enfants, donc on ne peut travailler que le week-end. Et donc c'est, on consacre au moins 30 week-ends à monter la pièce. L'écrire, c'est des ateliers d'écriture, c'est beaucoup de paroles, énormément de paroles, on échange. Et c'est parfois, dans le cadre de cet échange, que tout d'un coup, il y en a une qui se met à parler d'un aspect de ce qu'elle a vécu, d'un problème auquel elle est confrontée là, en ce moment. Mais rien, je ne pose personnellement aucune question. Et de toute façon, chaque séance, qui dure 2 heures, on va dire, de travail, est précédée par une mise en condition avec toujours Tania qui assure cette médiation et un débriefing.
Après,
qui permet pendant une demi-heure au moins de revenir sur. C'est elle qui assure ce travail, j'allais dire plus, je vais pas dire thérapeutique, mais enfin voilà, c'est elle qui. Mais si vous voulez, c'est vrai que le rapport est un rapport de défiance au début. Alors ça a été plus simple pour la deuxième pièce que vous avez vue, la deuxième création, parce que des femmes du premier groupe ont été reconduites. Elles ont souhaité poursuivre l'aventure. Et du coup, c'est elles qui ont facilité les choses par rapport aux 4 nouvelles.
Parce que c'est la deuxième fois, il y a eu 2 pièces
théâtre. Il y a eu 2 pièces.
On sentait effectivement qu'il y en avait. Alors moi, j'en ai repéré qu'une sur les deux. Qu'il y en avait une qui était plus leader et qui, à un moment donné, rassurait les autres en disant c'est ok, c'est bien les filles, quoi. Du coup, c'était. Même si ce n'était pas la première représentation à laquelle j'ai été.
Non, ce n'était pas la première, c'était la troisième représentation. Ouais. Et oui, alors du coup, là, si vous voulez, la première. Il y a une vraie progression entre la première représentation, la quatrième représentation. Et notre objectif est d'avoir au total une dizaine de représentations.
Et moi, j'ai une petite question. Alors, quels ont été les sujets de ces pièces de théâtre ? Est-ce que c'est une pièce de théâtre qui est préexistante ? Est-ce que c'est... Là, c'est coécrit, j'ai compris, mais est-ce que c'est de la réécriture d'une pièce de théâtre ? Est-ce que c'est... Comment ça se... Parce que co-créer une pièce de théâtre, c'est énormément de travail d'écrire une œuvre originale.
Bien sûr.
Quelle est cette pièce de théâtre ?
Si vous voulez, Tania leur explique la finalité. La finalité, c'est vous avez envie de dire des choses, vous avez envie de faire passer des messages. Eh bien, écoutez, profitez de cet atelier théâtre pour les mettre sur le papier, ensuite les jouer et faire passer le message urbi et orbi. Alors évidemment aux femmes d'abord, mais bien entendu aux hommes aussi. Et il n'y a pas de si vous voulez, le but, c'est pas de, se dire, ah ben tiens, pour leur changer les idées, on va leur faire jouer ici du Molière, là du... Non. Ça, c'est, il faut que ça vienne d'elles. Et donc, si vous voulez, tout à l'heure, vous parliez d'injustice à propos des violences faites aux femmes. C'est l'un des thèmes majeurs, c'est la colère, l'injustice. Mmh. Alors après, il y a tout ce qui est totalement inhérent, évidemment, aux violences faites aux femmes, c'est la culpabilité. Enfin voilà, c'est l'isolement. Tout ça ressort, mais à travers soit des métaphores, soit d'une manière détournée, soit à travers des textes qui existent déjà. Après, moi, je leur fais faire des travaux d'écriture en donnant des thèmes, mais des thèmes qui ne sont pas forcément en lien avec ces sujets. Ça peut être autour des couleurs, des oiseaux, des... Mmh. Voilà, et je les laisse au maximum s'exprimer, et après, ensemble, nous faisons un travail de mise en forme, de réécriture.
Pour relier tout ça,
pour donner un peu une cohérence. Alors, juste très, très rapidement, la première pièce, elles allaient voir, c'est d'ailleurs très, très, j'ai trouvé ça très passionnant, elles allaient voir, en écoutant la radio, en lisant dans la presse, en regardant la télévision, elles allaient voir des sujets qui les touchait, qui les interpellait. Dans la première pièce, elle joue le concours de Miss Pérou, où les Miss avaient décidé, au lieu de se présenter, de donner les chiffres de violence conjugale au Pérou. C'est le Pérou, mais enfin, c'est un pays d'Amérique latine. Du coup, hop, on a plaqué ça sur les chiffres en France. Et elle se moquait d'une émission de radio sur RMC où les deux présentateurs, d'une manière assez, enfin, bon, je vais dire classique et odieuse, présentaient l'affaire Neymar qui était accusée de viol. Alors, ouais, mais t'as vu la tranche de la fille, c'est une Ligue 2, quand on est Neymar, on peut se taper. Enfin, oui, c'était à peu près ce niveau-là. Mais ça leur permettait, elles, de partir à la fois sur ce thème, tout en le moquant le Saint-Jean. Et puis, on a des moments qui sont plus... où là, moi, je fais une synthèse un peu de ce qu'elles racontent en général. Et puis, hop, ça devient un moment de la pièce qui est un moment beaucoup, beaucoup plus grave. Et puis, on terminait sur le texte de la tribune de Leïla Slimani sur les rapports hommes-femmes. Ouais. Après l'émergence de MeToo, et qui était un texte qui était assez équilibré.
C'était importuné.
Ouais, oui, c'est odieux. Enfin, c'est les hommes. Là, mais il y a aussi.
De Catherine
mais
Deneuve.
Nous, on veut. Oui, c'était voilà. Et nous, on veut. Nous, les femmes, on veut aussi avoir non seulement avoir une vie normale, mais aussi pouvoir vivre de la séduction. Voilà. C'était tout ça a fait l'objet de discussions.
C'est intéressant.
C'est vraiment de débats, d'échanges.
Parce que ça veut vraiment dire que les médias, enfin, c'est pas nouveau, mais ont un rôle énorme à jouer dans le traitement des violences conjugales et qui ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font en minimisant, par exemple, l'affaire Neymar, mais d'autres choses à la télévision, en minimisant à chaque fois en disant « Oh, c'est bon !» ou en écoutant les blagues de Bigard ou ce genre de choses. Et en fait, ils ne se rendent même pas compte de leur rôle, de leur impact, et à quel point c'est... Enfin, c'est vrai que c'est assez ahurissant de se dire qu'on laisse cette parole-là exister, qu'il n'y a aucune remise en question de la part de ces messieurs de RMC ou autres, et que, en fait, à côté de ça, ces femmes qui sont victimes de violences conjugales, elles, ce qu'elles entendent, c'est « ma souffrance n'est pas légitime, peut-être que c'est moi, je me suis mal habillée, bah ouais, mais en même temps, est-ce que l'amour, c'est pas aussi la violence ?» Des choses absolument fausses, mais c'est fou le rôle pour qu'elles aient choisi, pour cette pièce de théâtre, finalement, de parler de pas de récit médiatique, c'est pas le bon mot, mais de ce qui existe dans les médias, c'est assez... Enfin, il y a une grosse remise en question à avoir de la part des médias.
De cette dérive insidieuse et permanente. Alors, comme ancien homme de médias, et toujours homme de médias, je dirais qu'il y en a quand même qui font attention. Et ensuite, heureusement, tu le dis, les choses sont en train de changer. Donc il y a une vigilance. Non, on est encore très loin du compte.
Oui,
bien entendu, bien entendu.
L'article de l'équipe sur le nageur qui venait une gamine et c'est le triple médaillé, champion olympique. Et on s'en fiche en fait.
Wikipédia.
De Nicolas Hulot, de sa tribune d'Ambet. Et en fait, on se dit bien sûr qu'il y en a. Alors, je pense plutôt la presse indépendante qui fait beaucoup de choses. Mais la presse mainstream qui a la grande place n'a pas envie parfois de changer les choses.
Non, mais ça, c'est tout à fait clair. Alors, si vous voulez, cela fait partie, ça me permet juste de faire cette petite assise, cela fait partie de, cela a fait partie, pardon, de ma motivation pour accepter la proposition.
Parce que justement, c'était une des questions que j'avais, c'est qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, tiens, déjà, je vais faire une intervention en théâtre dans une association qui traite de ce sujet-là. Comment ça s'est passé, en fait,
On pourrait peut-être expliquer le parcours d'Hervé.
Mm-hmm. Également,
ancien journaliste.
Oui. J'ai effectivement fait l'essentiel de ma carrière comme journaliste, et en l'occurrence, essentiellement à Radio France Internationale. Mais il y a un peu plus de 10 ans, pour tout un ensemble de raisons, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'aborder une nouvelle vie. Mmh. Et donc, je suis allé, j'ai franchi le pas, j'ai quitté RFI à la faveur d'un plan social, parce qu'il y avait toute une grande restructuration. Mais j'avais envie, je faisais déjà du théâtre en amateur, depuis une dizaine d'années, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de monter des pièces, j'avais envie, donc j'ai monté une compagnie. Et voilà, on est allé à Avignon, on a joué une pièce, on en a monté au total de 4. Et donc, je voulais aller jusqu'au bout. Et lorsque Tania m'a proposé, en disant, écoutez, moi j'ai vraiment un projet qui est de faire du théâtre hors les murs avec des femmes de l'association. Et là, je me suis dit, waouh, il y a non seulement un véritable enjeu, je ne parle pas simplement sur le plan personnel, mais il y avait un véritable enjeu, autre que simplement se faire plaisir, moi, à écrire des pièces, à les jouer, à les monter. Mais de me dire, tiens, c'est peut-être pas mal de poursuivre en faisant cela. Et moi, homme, c'était pas neutre non plus.
Je suppose que ça te questionne beaucoup, parce que ces femmes, elles sont suivies psychologiquement, mais que toi aussi, ça te questionne d'être face à des femmes dont tu ne sais pas leur histoire et que c'est pas le sujet, et qui à la fois, à travers des choses qui sont déconnectées de la violence, elles arrivent à revenir à chaque fois sur ce qui les impacte au plus profond d'elles et qui les a meurtries. Et puis, et c'est pas que cette histoire-là, c'est toute leur enfance. En fait, on rejoue toute l'enfance quand c'est comme ça. Et du coup, toi, qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi, de travailler avec elles, quoi ?
C'est tout bête, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on est pas mal dans le social, dans la famille, mais j'ai eu le sentiment de briser, enfin d'ouvrir les portes et de rentrer vraiment dans, notamment là dans cette question des violences conjugales. Je suis comme tout le monde, je sais ce qui se passe, mais je n'avais peut-être pas pris conscience de la profondeur des traumatismes. Et là, j'avoue qu'effectivement, c'est une grande claque, et qui, mon regard sur les hommes, est un petit peu plus complexe. Là, il est un petit peu plus... c'est sûr que là, il y a une remise en question extrêmement profonde du rapport homme-femme, de la condition masculine, pour moi. Enfin, ça a bousculé, ça a beaucoup bousculé mon... Je ne veux même pas dire des certitudes, je n'avais pas de certitudes, mais simplement un ordre des choses. Oui, je n'avais pas pris à ce point conscience. Ça, c'est certain.
Ouais, ça, c'est ce qu'on ne parle pas suffisamment, c'est ça, c'est de se dire à quel point Tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne sait pas réellement ce qui se passe dans l'intimité de chacun. Et puis après, c'est aussi comprendre la personne qui donne des coups, qu'est-ce qu'elle aussi vit et comment elle est aussi, parce que c'est aussi des fois aussi douloureux, aussi pas bien quoi. C'est des gens qui ont aussi vécu de la violence quand ils étaient petits. Enfin, il y a plein de schémas différents pour toutes les personnes violentes. Et c'est ça qui est bien, parce que dans la pièce, on déconstruit pas ça. On n'en parle pas parce que c'est pas du témoignage, mais qu'il faut aussi en parler parce qu'il y a les gens, il y a les victimes, et puis il y a ceux qui comment je vais les appeler, les bourreaux, qui eux vivent aussi des choses qui sont pas si évidentes que ça, mais qui sont pas pardonnables pour autant, mais qui ont des histoires complexes derrière.
Il y avait justement un podcast, il me semble, qui s'appelle Des hommes violents, qui a été sur France Culture l'année dernière, et qui était toute une série en quelques épisodes où en fait une journaliste était allée écouter, c'était des groupes de parole des bourreaux ou des agresseurs, et c'est vrai que c'est très dur à écouter parce qu'il y a des choses qui sont complètement bloquées. Il y a comme tu disais tout à l'heure, un ordre des choses dans la tête de ces hommes qui est complètement différent. C'est normal, elle l'a mérité, elle m'a énervé, et donc toute cette étape là de déconstruction, de respect de l'autre, de remettre l'autre sur un même pied d'égalité, de comprendre qu'on peut communiquer sans violence, etc. Et on voyait en fait tout ce processus là, mais oui, il y a du boulot. Hein.
Alors, c'est vraiment au cœur de tous les échanges qu'on a tout au long du travail d'élaboration de la pièce, à tel point d'ailleurs que... Alors, moi, j'avoue que je m'y attache, mais cet aspect que tu évoquais, Carole, c'est-à-dire, au fond, c'est ce qu'a probablement vécu l'homme agresseur, lui, lorsqu'il a été très probablement agressé. Il y a toujours un moment où on essaie de faire un tout petit peu cette part des choses. C'est vrai que aucune des femmes qui participent à l'atelier n'a envie d'en faire un sujet à part entière dans la pièce. C'est d'abord de faire passer le message. C'est, disons que on peut s'en sortir, on peut retrouver de la dignité, et ainsi de suite. Mais l'injustice, c'est que c'est moi qui suis frappé et c'est moi qui dois partir. Ça, c'est une injustice profonde. Mais on en parle quand même au cours des échanges, ou en tout cas, elles en parlent. Et même dans la pièce, c'est toujours à celles et ceux qui ont subi, notamment pendant le confinement. Y a toujours le souci de ne pas exclure le masculin. Et ça, c'est vraiment... pour elle, c'est quelque chose, en tout cas, que la plupart admettent. Parfois, ça peut les bloquer. Si jamais c'est trop favorable, entre guillemets, ou bien c'est trop... ça prend trop en compte... ah bah oui, mais enfin, c'est quand même lui. Et là, bon, c'est une discussion et c'est une élaboration commune.
À la fois, on n'a pas d'éducation, en tout cas sur la sexualité. Et après, on n'a pas non plus d'éducation sur comment on se comporte en couple. Enfin, c'est quoi un couple et c'est quoi le respect, c'est quoi la communication, enfin...
Ah bah, le grand problème en France, c'est le manque d'éducation à la sexualité. C'est quand même ahurissant de se dire qu'on laisse une société s'aimer, entre guillemets, et avoir de la sexualité sans aucune notion de connaissance du corps, connaissance de l'autre, respect de l'autre. Et après, on se dit, ah bah oui, il y a des problèmes de violence sexuelle, de violence conjugale. Mais moi, je trouve ça absolument dingue que chacun doive se faire sa propre éducation. Alors, bien sûr qu'il y a une part en soi, de son intimité à soi, mais il faut des outils. Mmh. Et ça, c'est vraiment... C'est un vrai problème de santé sexuelle.
Et
c'est grave, c'est assez grave aussi, parce que ça se transmet quand ça va pas dans notre intimité, ça se transmet dans la sphère professionnelle, amicale, familiale, sociétal. Donc c'est tout part de l'intime, quoi. Donc c'est très grave.
Puis toutes les femmes qui disent, il rentre, il est alcoolisé, donc je vais faire de la sexualité pour pas qu'il frappe mes enfants, faut pas qu'il frappe, qu'il me frappe, ou voilà. Et du coup, c'est, tout est subi, ou pas alcoolisé. Hein. Moi, j'ai des femmes qui disent, voilà, ça fait 15 jours, je vais le faire parce que sinon, ça va mal se passer, quoi. Sans parler pour autant de violence, de coups.
Parce que dans les violences conjugales, et c'est ça qui est important de le rappeler, et c'est vrai qu'il y avait eu d'ailleurs nous toutes qui avaient fait quelque chose là-dessus, qui disait violences conjugales, bien sûr, il y a plein de types de violences conjugales. Il y a tout ce qui est pression psychologique, tout ce qui va être si tu me quittes, je me suicide. Tout ce qui est emprise sur
c'est très très important
ça, c'est important d'expliquer que c'est alors bien sûr c'est absolument abominable et horrible des coups, mais que des femmes qui se sentent victimes, et peut-être qu'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, il y a d'autres aussi formes de violence conjugale que celle physique et celle psychologique ont autant de séquelles. Et ça, bien sûr, tu dois l'avoir aussi dans les pièces de théâtre, dans la pièce de théâtre que tu coécris avec ces femmes. C'est qu'il y a il y a tout ce qui, comme tu disais tout à l'heure, tout ce qui reste dans le cerveau comme emprise,
bien sûr,
qui a autant de violence qu'un coup.
Alors ça, on le fait notamment dans la pièce que tu as vue, Carole, dans la dernière, qui s'appelle Le Grand Large. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il y ait une scène consacrée au confinement. Parce que le confinement a été un peu une sorte de paroxysme de cette illustration. Et notamment, prenons le masque simplement, où au cours de discussions tout à fait anodines, il y en a une qui dit « Oui, non, mais le masque, c'est un baillon. Ça a été un baillon. » Alors que elles sont vaccinées, enfin, elles respectent les gestes barrières, mais il y a ce ressenti. Une autre disait « C'est une muselière. » Ou bien... Ça, c'est des petites choses, si vous voulez, mais qui les ramenaient, le confinement les ramenait à ce qu'elles avaient vécu. Et dans la première pièce, il y a une scène qui est, j'y tenais beaucoup parce que bon, elle est violente puisqu'elle prolonge cette petite anecdote sur l'histoire du foot, Neymar et RMC. C'est l'une des femmes qui était venue et qui m'avait dit « Oh, j'ai vu que quand il y a eu la Coupe du Monde de foot en Grande-Bretagne, les violences conjugales augmentaient. » Je suis allé un petit peu plus loin et en effet, il y avait une campagne, c'était dans je ne sais plus quelle année, il y a 3-4 ans, je ne sais plus. Il y a une campagne avec un drapeau britannique. Sur le fond, il y a le visage d'une femme blessée avec du sang. Voilà. Et le thème, c'était « Si l'Angleterre perd... » Non, pardon. Si l'Angleterre gagne, elle aussi, c'est-à-dire l'idée, c'était l'Angleterre gagne, il y a une augmentation de 25% des violences conjugales, l'Angleterre perd, il y a une augmentation de 38% des violences conjugales. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, à la fin du match, ce que tu évoquais, c'est-à-dire... Elle sait qu'elle va, la femme sait qu'elle va de toute façon subir des violences. Et du coup, on a retourné l'idée, et c'est une femme qui joue l'agresseuse, et une autre qui met simplement un masque. Et ça a été très dur à monter comme scène, parce qu'elles étaient toutes... mais elles tenaient en même temps... à le faire, elle tenait à le jouer. C'est juste là où les choses sont passées. Et même chose là, dans la pièce Le Grand Large, on a choisi ensemble un extrait du livre de Djaïli Amadou Amal qui a été sur un concours des lycéens, Les Impatientes. Parce que elles disent, les impatientes, ça leur a parlé. À chaque fois, on leur demande d'être patientes. Mais oh, ça s'arrangera plus tard. Mais t'en fais pas, c'est le mouyal. Mais t'en fais pas, ça s'arrangera. Endure, endure, endure. Et donc, et c'est le récit d'une violence conjugale. Et à un moment, l'autrice Djaïli Amal dit. Et là, il me viole en guise de consolation. Voilà. Donc, elle, jusqu'au bout, non seulement elle est maltraitée, mais jusqu'au bout, voilà, ça, c'est des moments qui sont des moments, enfin, je trouve assez, assez forts. Parce que finalement, elles parlent de, c'est leur manière de parler de ce qu'elles ont vécu. Mais juste tout de même, j'insiste, c'est que dans la construction de la pièce, et vraiment à leur demande, et je vois bien la transformation qui s'opère en un an de travail en elles, ou de personnes extrêmement fermées. Il y en a qui sont bloquées, il y en a qui me disent, mais il y a puis je l'ai bien vu quand je leur demandais de parler de la pluie, du beau temps. Je ne peux pas parler. Et elles se déverrouillent. Ça, c'est vraiment, c'est très très, c'est très impressionnant. Elles se déverrouillent et elles retrouvent l'envie de rire. Vous pouvez pas imaginer la satisfaction, enfin, et elles, la fierté qu'elles ont de tout d'un coup, mais même physiquement, elles se changent. Il y en a une qui arrive, tout d'un coup, elle est passée chez le coiffeur, et elle nous fait une entrée à la casta, en faisant comme si c'était. C'est extraordinaire, enfin, c'est vraiment. Et le message qu'elles veulent passer, c'est on s'en sort, on s'en sortira, et on peut s'en sortir.
On sentait quand même une belle complicité entre elles pendant la pièce de solidarité.
Qui n'est pas évident, parce qu'au départ, elles ne se connaissent pas.
Ouais.
Elles sont d'horizons divers. Elles sont, comme tu l'as dit, d'âge divers, c'est-à-dire c'est de 25 à 60 ans. Et ça, je trouve que c'est un spectre qui est super intéressant. Et vous les verriez aujourd'hui, quand il y en a une qui a un petit bobo, parce qu'elles sont sur WhatsApp, elles se suivent, elles s'accompagnent, elles sont d'une... c'est un vrai groupe.
C'est une sororité.
Ah, c'est un commando, c'est une force de frappe géniale.
Ça s'est senti à la fin de la pièce. Moi, il y a encore un truc qui m'avait marqué par rapport à la fin de la pièce et toutes les présentations, c'est que... je ne sais pas pourquoi je m'étais imaginé ça. Hein. C'est que elles sont pas venues du tout vers toi. On n'a pas senti, comme dans certaines pièces de théâtre, où on va remercier le metteur en scène, on fait des accolades au metteur en scène. En fait, à la fin de la pièce, les présenter, tout ça, pas par leur vrai nom, mais par des pseudos qu'elles se sont donnés. Voilà. Après, on a senti qu'elles étaient entre elles et qu'elles retrouvaient de la chaleur entre elles et qu'elles étaient sécures entre elles. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'elles n'aillent pas vers toi. Et moi, j'ai senti qu'elles étaient une équipe et toi à côté.
Peut-être. C'est d'abord parce que je pense que c'est elles qui font le boulot, si vous voulez. C'est elles qui. C'est un moment qui, je trouve, leur appartient. Complètement. C'est genre d'une manière globale, je pense, pour le théâtre. Bien entendu que le metteur en scène ou sont des gens qui sont importants. Mais enfin, ceux qui se produisent sur scène, ce sont quand même les comédiens. C'est pas le metteur en scène. Donc, si vous voulez, pour moi, je trouve que ça doit leur appartenir entièrement. Ce serait presque. Ça a été le cas pour la première pièce. Où, quand elle nous faisait monter, Tania et moi, tout d'un coup, elle se lâchait. Et je pense que on dévalorise le rapport de ces femmes vis-à-vis du public. Leur démarche, c'est de faire passer un message. C'est pas de nous remercier, c'est pas de nous. Il existe ce moment-là, mais après. Où il a existé pendant tout le temps de travail. Donc, non, ce moment-là, c'est leur moment avec le public. Et ça, c'est vraiment, je trouve, extrêmement important.
Avant de conclure, Laura, il faut quand même qu'on mette dans notre podcast qu'il y a aussi des hommes qui sont maltraités. Parce que c'est important aussi de le dire, parce qu'on a des hommes et des femmes qui nous écoutent. Et qu'on a beaucoup parlé, effectivement, des femmes maltraitées, mais aussi des hommes qui sont maltraités. Alors, le pourcentage est moindre, c'est sûr. Mais que c'est aussi, eux aussi ont le droit à la parole, eux aussi ont le droit de se faire aider, eux aussi ont le droit d'aller vers des associations pour pouvoir s'exprimer.
Alors, je me permets juste de rebondir à nouveau dans la pièce, même si ça n'est dit peut-être qu'une fois ou deux fois, c'est toujours à celles et ceux, par exemple, que le confinement a replongé dans la première pièce. Elle traite avec ironie toutes les annonces concernant le Grenelle des violences faites aux femmes et dans les slogans plus de bracelets électroniques, plus de d'ordre de protection juridique, ainsi de suite. Elles disent aussi plus de place pour les hommes violents, pour le traitement des hommes violents. Donc, on a toujours ce souci. Et puis l'autre souci, c'est que je mettrai dans chaque pièce, j'espère en monter une troisième, que ces femmes se relèveront et se battront et militeront pour avec les hommes justes. Et ça, c'est ma part personnelle pour revenir à ma position. Je tiens absolument à leur faire passer ce message. C'est qu'il n'y a pas les bons et les mauvais. Il y a aussi des hommes justes.
On est d'accord avec ça.
Maigre contribution, mais bon.
Donc nous, ce qu'on voulait vraiment dans ce contenu, c'était montrer que l'expression artistique, l'expression de soi, pouvait être une manière de se reconstruire après des violences conjugales. On voulait aussi parler de ce sujet toujours malheureusement tabou et des chiffres qui ne vont pas mieux malheureusement encore en 2021. Et surtout, dire que si certaines personnes nous écoutent, qu'elles ont traversé des choses, qu'elles ont des amis qui traversent ces choses-là, la souffrance est légitime et même si le processus sera douloureux, comme tu dis Hervé, on s'en sort et on s'en sort pas seul surtout. Donc merci beaucoup Hervé d'être venu au micro de Vibrante.
Merci de m'avoir invité, mesdames.
C'était avec plaisir.
Et puis à très vite pour un nouvel épisode.
C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grande Contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.